Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Lui, la vérité, c'est de Hébreux 13, je pense que c'est le verset 9, qui dit « Il est bon que le cœur soit affermi dans la grâce. » En fait, c'est le motto de toute ma série sur la persévérance des saints. C'est que je veux qu'on soit sécure dans la grâce de Dieu. Certains définissent la grâce comme quelque chose qui est arrivé à un moment donné. Et tout au long de cette série, je veux qu'on découvre ensemble que la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé juste au passé, c'est quelque chose qui continue de persévérer avec nous tout au long de notre marche. Peut-être que vous passez différentes épreuves et difficultés, puis vous avez juste besoin, justement, de savoir que l'amour de Dieu vous rend plus que vainqueur dans ces situations-là. Peut-être justement que vous êtes rejeté par des gens et vous avez besoin d'être affermi dans l'amour que Dieu a pour vous, justement. Peut-être que vous êtes face à votre impuissance d'aimer comme vous voudriez aimer ou comme vous voyez dans la Bible comment on est appelé à s'aimer les uns les autres. Puis vous dites, ouais, j'ai un amour commercial plus qu'un amour d'alliance. Un amour commercial, c'est pas compliqué. J'achète ton produit tant qu'il comble mon besoin. S'il ne comble pas mon besoin, je vais aller vers une autre compagnie ou un autre service qui, lui, va combler mon besoin. Peut-être vous souffrez dans une relation de mariage où c'est comme, t'es mieux de faire ci, t'es mieux de faire ça. Sinon, tu sais, peu importe où ce que vous êtes par rapport à votre besoin, on a tous besoin d'avoir un cœur qui est affermi dans la grâce de Dieu. Alors, c'est sûr qu'au début, je vais peut-être répéter des choses que vous savez déjà. Peut-être que je vais les rappeler. Ça, c'est un petit peu comme un ami que ça fait 10 ans que tu n'as pas vu, puis tu penses que tu te souviens de lui, mais tu avais oublié toutes ses manières, tu sais, quand il lève la tête comme ça, ou quand il, toutes les tics qu'il a, ses habitudes, ce qu'il préfère, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, tout ça. Tu te souviens des grandes lignes de qui il est, mais ça te prend à peu près 1 minute à 10 minutes pour redécouvrir la personne que tu avais connue il y a de cela 10 ans. Il n'a pas changé, mais il y a des choses de lui que tu ne te rappelles plus. Puis c'est bon de ne pas mettre en oubli la grâce de Dieu dans nos vies. Notre Église porte le nom Église Grâce et Vérité. Ce n'est pas pour rien. On pense que, je m'assure, que le message est essentiellement autour de la grâce et de la vérité. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je pense qu'on ne l'a pas tout à fait saisi non plus. Ça veut dire que de réentendre des vérités que j'ai peut-être déjà apprises, mais je ne les connais peut-être pas comme je devrais les connaître. Puis si je connais la grâce de Dieu, est-ce que je suis affermi dans ma manière de la manifester, cette grâce-là, aux autres? J'ai peut-être besoin d'être affermi, pas dans ma compréhension, mais dans mon application de cette grâce-là. L'assiette qui m'est servie, c'est aussi l'assiette que je suis appelé à servir à mes contemporains, à ceux qui sont autour de moi, à ma famille, à l'Église du Seigneur Jésus. Alors, le titre du message aujourd'hui, c'est « La grâce dans Romains ». Si vous posez la question si on est toujours dans une série sur la persévérance des saints, oui. Mais ça va être deux messages qui vont porter le nom à cette étape précédente. La grâce dans le livre de Romains. Dans le deuxième message, je vais parler du verset qui semble nous dire que Dieu dit « Je suis avec toi, sinon, jusqu'à ce que… » Mais on a besoin de s'affermir dans le livre de Romains. C'est un verset qui est dans le livre de Romains. On n'en parlera pas aujourd'hui. On va juste justement montrer que l'amour de Dieu, c'est comme une grosse masse. Puis la crainte du jugement ou la crainte d'être poussé par Dieu au jugement dernier, c'est comme une mouche. Puis que la masse est tellement grosse qu'on n'aurait pas besoin d'avoir tous ces arguments-là dans le livre de Romains pour montrer que ce petit verset-là qui semble faire un peu d'ombrage, c'est comme la perception même qu'il y aurait un jugement, bien, c'est banni par l'amour de Dieu complètement. OK, la grâce dans le livre de Romains. Si ça vous intéresse, sur le site, j'ai prêché plus d'une quarantaine de messages, verset par verset, de l'Épître aux Romains. Mais on va le faire en 2 messages, puis le but, ce n'est pas nécessairement de passer dans tous les versets de Romains, c'est de faire une thématique au travers de ça. Ça fait une semaine que je le lis, je l'ai lu à quelques reprises. Et on va donc voir un fil conducteur tout au long de l'Épître aux Romains. On va regarder la définition de la grâce de Dieu pour commencer. La grâce de Dieu, c'est l'expression de la bonté et de la faveur imméritée de Dieu qui est démontrée par la création de l'univers et sa préservation. On ne méritait pas que Dieu crée. Ce n'est pas sur une base qu'on était beau, qu'on était fin, ou qu'on serait beau ou qu'on serait fin, que Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il nous a donné avec ça, puis qu'il la maintient. Ce n'est pas parce qu'on est bon. La Bible a dit il pleut sur les bons et les méchants, il fait soleil sur les bons et les méchants. Ce n'est pas par notre bonté que la terre et tout ce qui se maintient continue. C'est par sa bonté et sa faveur non méritée dans la création de l'univers, puis dans la préservation. Certains, là, dans la théologie, l'ont appelé la grâce universelle de Dieu. C'est aussi une bonté et une faveur imméritée qui est démontrée dans l'incarnation. On ne méritait pas que Dieu se fasse homme et qu'il puisse venir vivre parmi nous. Ça aussi, c'est une bonté qui nous est montrée. Il y a des versets qui nous disent que Dieu, sa bonté et sa miséricorde nous est apparue. Je pense que c'est dans... Dans Tite 3, 4, le verset nous dit « Quand la bonté de notre Dieu, de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. » Sa bonté et son amour pour tous les hommes ont été manifestés. De quoi est-ce que Tite parle quand il parle de ça? Ben, il parle bien sûr de sa propre personne, de la personne du Fils, la personne de Dieu. Ben, Dieu le Fils qui s'est fait chair. Donc ça, c'est la démonstration de sa bonté, de son amour pour nous. Ensuite, la grâce de Dieu, c'est l'expression de sa bonté et de sa faveur imméritée démontrée dans l'offre du salut, c'est-à-dire de sauver quelqu'un, qui consiste à payer entièrement pour lui par sa mort propitiatoire. Le mot propitiatoire veut dire prendre la place d'un autre. Et donc, c'est ce qu'il a fait pour nous. Il a pris la place de nous, il a subi à notre place la colère de Dieu. La propitiatoire veut dire dévier, excuse-moi, le jugement. Dévier le jugement. Un peu comme les avions qui envoient des contre-mesures quand ils se font envoyer un missile. Jésus-Christ a pris sur lui le missile, si on peut dire. Il a été la contre-mesure de la justice divine en payant entièrement par sa mort propitiatoire. Et l'expression de la bonté et la faveur imméritée de Dieu démontrée dans le but, tout ça a été dans le but de nous unir à lui-même par sa résurrection pour une relation d'alliance. Donc, le but de tout ça, le but de nous montrer sa bonté, c'est de nous unir à lui. Et la plus belle image qu'il utilise pour ça, c'est le mariage entre un homme et sa bien-aimée. Et donc, il veut s'unir avec les hommes dans une alliance. On pourrait dire que c'est la définition de la grâce de Dieu. Dans le livre de Romains, on voit du chapitre 1 au chapitre 3, verset 21, on a besoin de réaliser la grâce de Dieu. On a besoin de réaliser notre besoin de la grâce de Dieu. Et on pourrait dire que les trois premiers chapitres du livre nous montrent que le péché règne dans ce monde. Comment? On le voit par ses fruits. Tous ont péché. Personne ne cherche continuellement Dieu. Les hommes cherchent leur propre intérêt. Les trois premiers chapitres viennent établir qu'on a vraiment besoin d'une faveur, parce que si on voudrait se tenir dans la place du mérite, il n'y a personne qui pourrait se tenir devant Dieu. Et le mot qui pourrait résumer tout ça, c'est condamné. Condamné. On a besoin, comme dans certains pays, l'autorité de ce pays-là peut gracier un prisonnier. On a besoin d'être gracié, on a besoin d'être secouru. Ensuite, chapitre 4 au verset 7, chapitre 4 au chapitre 7, on voit la réponse de la grâce à notre état. La réponse de la grâce à notre état. Et on pourrait dire que la phrase clé, c'est « la justice règne par la grâce ». Et le mot thème, le mot clé, ce serait qu'on est justifié. On était condamné, la réponse de la grâce, nous sommes justifiés. À partir du chapitre 8, ça en parle un petit peu dans le chapitre 6, mais c'est développé plus dans le 8, puis ça continue dans le chapitre 12 à 16. C'est la justice règne par la grâce encore, mais cette fois-ci, veut mettre l'emphase sur le fait que le mot Saint-Esprit revient là, dans le chapitre 8, là, plein de fois, et que nous sommes animés par le Saint-Esprit. Ici, nous étions animés par le péché qui habitait en nous. Et maintenant, il y a une justice nouvelle qui est dans le croyant, qui fait qu'on a une vie juste, la vie juste de Jésus-Christ. On est animé par le Saint-Esprit. Et donc, on peut faire ce que Dieu nous demande. On a une justice qui commence à paraître à l'extérieur. Puis, de chapitre 9 à 11, je ne l'ai pas trop détaillé, parce que c'est le refus de la grâce et la restauration dans la grâce. C'est que ça parle, ces trois chapitres-là. Mais qu'est-ce qui arrive avec les Juifs? Ils l'ont crucifié, ils l'ont rejeté. Qu'est-ce qui arrive avec ceux qui rejettent la grâce? Bien là, il annonce dans ces chapitres-là qu'il y a un jugement physique qui arrive sur la nation qui a crucifié Christ. Mais il explique aussi qu'à la fin, ils vont être restaurés dans la quoi? Dans la grâce de Dieu. J'en parle pas trop. Pasteur Patrice, les mercredis soirs, enseigne un très, très bon enseignement sur les trois chapitres de Romains 9 à 11. Et puis, il y a le résultat de la grâce. Eh bien, encore une fois, c'est la justice qui règne et ses fruits, et c'est beaucoup en lien avec ma relation avec Dieu et ma relation avec les autres. C'est que la grâce de Dieu fait que je vis une vie juste et je suis affermi dans la grâce de Dieu de plus en plus. Et ça paraît parce que dans Romains 12:1, j'offre mon corps à Dieu comme un instrument, comme un sacrifice vivant. Il a commencé à en parler un peu au chapitre 6, mais il le développe plus ici. Puis ça va se traduire dans un amour fraternel sincère, ça va se produire, ça va faire que je vais avoir un amour différent que ce que j'étais avant habitué d'avoir. Donc, une justice qui règne, et c'est en lien avec ma relation avec Dieu, mais aussi avec le corps de Christ, et là, on parle de consécration. Fait que ça, c'est le livre de Romains. Et donc, j'ai dit que la grâce de Dieu, c'était que Dieu nous avait créé l'univers, préservé l'univers, qui s'était incarné, qui avait servi de victime propitiatoire pour nous, dans le but de nous unir à lui, dans une relation d'alliance. Dans une relation d'alliance. Une alliance, c'est une entente entre deux parties. Il y a des alliances conditionnelles, puis il y en a des inconditionnelles. Je vais vous parler de l'alliance conditionnelle, premièrement. Dans une alliance, il y a aussi l'idée de paiement. Paiement, parfois, au début, une entente que tu payes, comme une dot, par exemple, hein, quand on payait une dot lors d'un mariage. Si jamais vous auriez de l'eau pour moi, j'apprécie. Il y a aussi l'idée d'un paiement si une des deux parties ne respecte pas son contrat, cette partie de contrat. On pourrait dire qu'on a un contrat, finalement. Une alliance, c'est un contrat. Et donc, chacun doit faire sa partie. Il y a un paiement qui est fait au début, parfois, et il y a un paiement pour avoir enfreint cette alliance-là aussi. Okay? Une des images qu'on utilisait, c'était de couper des animaux en deux, mettre les parties de chacun de ces animaux-là à chaque côté, puis de marcher au Moyen-Orient, de marcher entre les animaux coupés. Et de faire une imprécation contre soi-même en disant qu'il m'arrive ça, ceci ou cela, si je ne respecte pas les paroles de cette alliance. Ce n'est pas toujours aussi drastique que ça, là. Mais il y avait parfois ça. Il y avait l'idée d'un prix qui était à payer si jamais il n'y arrivait pas, l'alliance n'était pas respectée. Si un ou l'autre des participants était infidèle, il y avait un prix qui était payé. Merci beaucoup. Le moyen de l'alliance qu'on a avec Dieu, c'est la croix. C'est le prix qui a été payé pour qu'on puisse être en alliance avec lui. Dans une alliance, il y a aussi l'idée de bénéficiaire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va profiter de cette alliance-là. Et on sait très bien que dans notre évangile, dans ce qu'on lit dans les évangiles, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu contracte par Jésus-Christ, eh bien, ce sont tous les hommes. Qu'est-ce que Romains nous dit sur les hommes? Oh, c'est petit un peu. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'homme? Elle nous dit que même si l'homme essaierait d'accomplir quelque chose qui plaît à Dieu, la loi nous ramène à ce constat, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains chapitre 3, versets 18 à 20. Alors, le moyen, vous dites, hey, je connais ces choses-là. Soyez affermis dans ces choses-là, c'est important. Le moyen de l'obtenir, cette alliance-là, le moyen d'obtenir le salut, c'est par la foi. Et beaucoup de gens vont dire la foi vient de Dieu, puisque si jamais l'homme devait croire, ça deviendrait donc comme une œuvre par laquelle il doit mériter le salut. Mais la foi en Dieu n'est pas un acte méritoire et ça ne change pas le fait que le salut est gratuit, pas plus que l'air qu'on respire. L'air que je respire, elle est-elle gratuite? Elle est gratuite. Donc, le fait que je la respire ou je ne la respire pas, c'est que je me l'approprie ou je ne me l'approprie pas, mais ça ne change rien à sa gratuité. Le salut qui nous est offert en Jésus-Christ, la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ, elle est gratuite. Et c'est nous qui devons la recevoir par la foi ou la rejeter. Un autre exemple, c'est l'héritage. Vous êtes appelé à hériter, mais vous devez accepter l'héritage. Tant et aussi longtemps que vous n'avez pas accepté l'héritage, elle n'est pas à vous, même si elle vous est destinée. Le salut est offert à tous les hommes, mais c'est ceux qui ont la foi qui se l'approprient. Et donc, la foi qu'on place en Jésus-Christ, et ce qu'il a fait pour nous à la croix, elle ne rend pas cette alliance-là conditionnelle. Nous ne sommes pas dans une alliance conditionnelle, mais dans une alliance inconditionnelle. Je vais en parler un petit peu plus tantôt. Donc, je ne paye pas pour l'air que je respire, je ne la mérite pas non plus, mais ma foi rend le salut accessible. Et c'est pourquoi on va voir des fois que c'est par la foi qu'on est justifié, c'est par la foi qu'on a eu accès à Dieu. Mais ce n'est pas la foi qui m'a sauvé. La foi a obtenu ce qui a été 100% fait et gratuit et offert par un autre. Donc, la grâce, c'est une réponse à notre état. C'est une réponse à notre état. Donc, ça, c'était notre état. On avait besoin de la grâce. La grâce est une réponse à notre état. Et notre foi, c'est une réponse à cette réponse. Donc, c'est un retour que l'homme fait sur est-ce que tu veux avoir une justice dans ta vie qui vient de la grâce de Dieu, qui règne dans ta vie par la grâce de Dieu. Veux-tu avoir une justice qui ne dépend pas de tes œuvres qui sont souillées, mais de l'œuvre au singulier d'un autre. Et on le voit bien ici dans Romains 5, au verset 17, c'est écrit « Si par l'offense d'un seul, remarquez ici que ce n'est pas le péché d'un seul, ok, ici, c'est par l'offense d'un seul, c'est la mort qui a régné par lui seul. » La semaine prochaine, on va voir comment le mot « mort » apparaît plus dans le livre de Romains que dans n'importe quel des autres livres du Nouveau Testament. Romains 5, 17 à 21. Et on va voir qu'il y a vraiment une thématique ici avec la mort qui règne versus la grâce qui règne dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, on va rester dans le thème de la grâce dans le livre de Romains. « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, c'est-à-dire que tous les hommes meurent. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. La justice règne par la grâce. Donc, il y a les alliances conditionnelles et inconditionnelles, et je veux parler de l'alliance inconditionnelle. L'alliance conditionnelle, c'est une entente entre deux parties. Mais on va dire qu'une alliance inconditionnelle, que le bénéficiaire, tous les hommes, qui ont placé leur foi en Christ, que les bénéficiaires n'ont pas à payer le prix de l'alliance, pas plus que la dette qu'il s'ensuit pour le non-respect de cette condition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu prend sur lui, en Jésus-Christ, le paiement de ma non-fidélité. Est-ce que... Et c'est tellement vrai dans le livre de Romains, ce que je vous dis là, que Paul est obligé d'arrêter à Romains 6 et dire « Attendez, là, c'est pas parce que la grâce abonde qu'il va falloir qu'on pêche davantage. » Loin de là. Il faut qu'il arrête, fasse un break en Romains 6 parce que là, hey, pensez-vous que parce que Christ prend sur lui le paiement de nos incohérences, de nos péchés, même après avoir été sauvés, qu'on va pécher parce que la grâce de Dieu abonde? Loin de là. Mais c'est tellement fort comme cette alliance qui est inconditionnelle pour nous que Paul est obligé de faire un frein dans Romains 6 à cause de ça. Donc, le bénéficiaire ne paie pas, en tout cas pas pour le salut. Il est entrepris comme un père et entreprend son fils. Il va participer à sa sainteté. Mais en termes d'alliance pour le salut de son âme, c'est Christ qui paye pour le fait que l'homme continue à faire défaut quand il fait des mauvais choix. Et donc, ça fait de vous et tous et chacun ici, puis de tous les hommes qui ont eu la foi en son sacrifice propitiatoire, un bénéficiaire sans condition. Ça veut dire, t'as l'héritage, c'est fait, c'est réglé, et tu n'as pas à entrer en jugement pour ta marche. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est tout un risque que Dieu prend quand même. Mais il nous embarque dans une relation d'alliance inconditionnelle. Ça veut dire qu'il te rachète et c'est fait une fois pour toutes. Et notre foi nous fait accéder au bénéfice de cette alliance-là. Et Romains 5, au verset 1, dit « Étant donc déclaré juste, pas après le juste examen de ta marche, pas après avoir vu toute ta persévérance jusqu'à la fin pour voir si tu as été persévérant dans tous les domaines, mais il examine ta vie, au travers la perfection d'un autre. Et l'œuvre qu'il examine et scrupuleusement, c'est l'œuvre de la personne de Jésus-Christ. C'est sa perfection morale, c'est sa justice et c'est ça qui est scruté par le Père Saint. Regardez ici, déclaré juste sur la base de la foi. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce. Pas nous aurons accès, pas nous serons déclarés justes, mais nous sommes maintenant déclarés justes. L'énoncé de justice a déjà été fait, c'est déjà réglé. Il y a une déclaration qui a été faite. Elle ne sera pas faite après un examen scrupuleux de votre vie. Et vous avez la paix avec Dieu aussi, en étant réconcilié avec le Père. Et ça, c'est déjà un fait qui est accompli, et c'est votre foi qui vous a donné accès à ça. Mais ce n'est pas votre foi qui vous a racheté, c'est votre foi qui vous a donné accès à ce salut qui est complètement gratuit et sans condition, sans œuvre méritoire aucune, en échange de. Mais il faut juste accepter le testament, il faut juste accepter comme l'héritage qui est pour nous. Et ça, on le fait par la foi. Donc, il dit, vous avez été justifiés par la foi. Bien sûr que ce n'est pas notre foi qui nous a rendus justes. Elle nous a simplement approprié la grâce de Dieu. Nous avons accès à la grâce de Dieu par la foi, que vous avez par la foi à cette grâce. Quelle est cette grâce-là? D'avoir eu accès au Père et d'avoir la paix avec lui. Hein? Et ça, c'est quelque chose qui est fait, c'est déjà fait. Tout ça ici, c'est au passé, puis le reste au présent. On a accès. Et donc, être affermi dans la grâce de Dieu, c'est d'avoir accès à ce Père-là à cause des mérites de Jésus-Christ. Et donc, Jésus est le garant de cette alliance-là. Il dit ici, c'est par, nous avons ici la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, par son œuvre à lui. Une relation sécure. Dieu ne dit pas « je suis avec toi jusqu'à ». Je suis avec toi à moins que. Non. Il nous dit, je rachète ton âme, je paye le total. Puis il dit, je paye pour tes égarements passés, mais je paye en provision de tes égarements futurs. Je prends contre ma personne, Jésus nous dit, le prix de tes égarements. Pour rendre cette alliance-là inconditionnelle, c'est-à-dire qu'elle dépend de celui qui a choisi de la donner, elle ne dépend pas de nous. C'est quelque chose quand même. Une relation fragile, c'est une alliance conditionnelle. J'en parlais tantôt en affaires. Il faut toujours rester en la hauteur. Hein? Ceux qui ont un commerce le savent, ou ceux qui sont même en tant qu'employés, à la limite, mais des fois, il y a des syndicats qui rendent quasiment l'alliance inconditionnelle. En affaires, on doit toujours rester à la hauteur, sinon on nous remplacera par quelqu'un de plus compétent. Les contrats sont faits pour être certain que chacun des deux s'acquitte de ses responsabilités et devoirs à chacun. Les mariages, c'est une alliance conditionnelle. Je suis avec toi jusqu'à temps que tu me sois infidèle. C'est un droit que l'homme ou la femme dise, sais-tu quoi, s'il y a eu infidélité, l'alliance est rompue. Elle est rompue, donc elle est conditionnelle à la fidélité des deux partenaires. Par contre, ça veut-tu dire qu'il faut briser cette alliance-là? Non. Non, justement, parce qu'il y a certains qui vont prendre un droit qu'ils ont, pas un devoir, mais un droit de payer le prix de la douleur émotionnelle qui a été causée par l'infidélité du conjoint et quand même continuer. Je le dis, ce n'est pas un devoir, c'est un privilège ou c'est un droit qu'ils ont de le faire. La Bible n'est pas contre ça, mais c'est quand même conditionnel. C'est fragile un mariage. 50% des mariages ne font pas les 7 premières années. C'est fragile un mariage. Mais notre cœur peut être affermi dans la grâce. Et c'est là que... comment je pourrais dire donc? Persévérer dans une église locale. Recevoir un enseignement conforme à la grâce de Dieu fait que je ressors d'ici à matin avec l'idée que je ne laverai pas les toilettes avec la brosse à dents de ma femme. Non, c'est vrai, c'est de la miséricorde, c'est de ne pas donner à l'autre ce qu'il mérite peut-être, mais je me retourne, puis je suis là, moi, puis pour une dette de 100$, je peux étrangler quelqu'un, puis lui, il me dissout d'une dette, même après. Dieu ne me dit jamais... J'étais avec toi, mais t'es mieux de marcher droit. Il veut que je marche droit parce qu'il m'aime, puis il veut, ça va être bon pour moi, ça va être bon pour lui, puis ça va être bon pour les autres si je marche droit. Mais son amour, puis sa sainteté aussi me conduit. Il va m'entreprendre si jamais je marche tout croche. Mais il ne dit pas, je ne serai plus avec toi. Il va dire, tu vas avoir affaire à moi. Il va persévérer avec nous dans la sainteté, si on pourrait dire. Mais il ne dit pas, je vais être avec toi jusqu'à ce que. Et c'est pourquoi la série sur la persévérance des saints est tellement importante pour moi. Pourquoi je regarde ces versets-là qui, des fois, nous semblent nous dire que Dieu, gars, t'es mieux que, sinon, à moins que. Tu sais. Non. C'est tellement clair dans le livre de Romains. Puis pour être certain que c'est clair, il va prendre l'image d'un mariage dans le verset, justement, de la loi. Justement, ben, je ne sais pas si je suis rendu là. Oui, on est rendu là. Là, ici, là, la loi est venue par Moïse. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. L'expression de la fidélité de chacun des participants est nécessaire. Si tu respectes la partie de ton contrat, je reste avec toi. Je continue avec toi. Pour être certain que les lecteurs de l'Épître aux Romains comprennent, Paul va prendre l'exemple d'un mariage. Puis il va dire, tant et aussi longtemps qu'un homme est marié avec une personne, bien, il est lié à cette personne-là. Mais quand l'autre meurt, même si elle avait des exigences, par exemple, si ma femme veut que je nettoie, qu'à chaque fois que je me fais des toasts, je nettoie l'îlot après que j'ai fait mes toasts, ou que je ramasse mes bas puis mes bobettes. Mais supposons que ma femme meurt, je suis aussi libre de ses exigences. Ça veut dire que je peux laisser traîner mes bas, je peux laisser mes graines de toast sur le comptoir, puis je vais peut-être l'entendre juste parce que je vais dire « c'est ce qu'elle aurait aimé ». Le mieux que je vais avoir dans ma tête, c'est ce qu'elle aurait aimé. Eh bien, la loi de Moïse, c'est ça qui est arrivé. Elle est morte à la crucifixion. Et Paul explique, puisqu'elle est morte, cette loi-là, ce n'est plus cette loi-là qui régit ma relation avec Dieu. Je ne suis plus en termes de loi avec Dieu, je suis en termes de grâce avec Dieu. Puis pour être certain, est-ce que tu peux condamner quelqu'un s'il n'y a pas de loi? Donc, c'est ça, exactement. Donc, je peux, s'il n'y a plus de loi qui me dit que je peux rouler, je ne peux pas rouler à une certaine vitesse ou pas prendre mon cellulaire, s'il n'y a rien d'écrit, bien, la condamnation perd sa force. Et donc, il n'y a plus de condamnation parce qu'il y a eu une crucifixion. La loi a été clouée et il y a quelqu'un qui a été condamné pour mes désobéissances envers cette loi-là, pour façon de parler. Donc, c'est ce que Paul va apporter pour dire, hey, on n'est plus dans une alliance conditionnelle. La relation est dictée. Mais ça a toujours été, même dans l'Ancien Testament, en passant, on était sauvés par la grâce. Hein. Mais notre relation avec Dieu était basée sur l'observance de la loi. Donc, la fin de la loi est morte. Donc, ma femme, je peux encore l'entendre parler dans ma tête. Je l'ai vu faire ça de même. Là. C'est comme t'es mieux de te ramasser. OK. Donc, nous, en tant que croyants, on est appelés à comprendre notre relation avec Dieu qui est beaucoup supérieure à « je te fais une liste, puis tu es mieux de rentrer dans cette liste-là ». Si jamais un jour je vous rencontre en tant que couple, puis que là, je vais vous poser des questions, puis, des fois, c'est arrivé, j'ai vu des listes, mon ami, de ça, là, je dis comment l'autre peut vivre avec ça? C'est sa mort, ça. C'est une liste de tout ce qu'il faut que tu changes pour qu'on puisse avoir une relation ensemble. Ah, il peut avoir une liste certainement des choses qui nous rendent malheureux, puis on peut partager nos douleurs émotionnelles, puis dire comment on peut prendre soin les uns des autres là-dedans. Mais l'idée, c'était quasiment, si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Là, on a besoin, savez-vous quoi? Vous êtes peut-être dans cette situation-là. Si vous êtes dans cette situation-là, je vous le dis, vous avez besoin d'être affermi dans la grâce de Dieu. Et ça commence d'abord votre mariage, votre relation avec un autre, si elle est sur cette liste-là, pour que l'autre puisse mériter votre amour ou pour ce que vous... Que l'autre, s'il n'a pas fait tout ça, il ne vous aime pas, bien peut-être que justement on a besoin d'avoir un cœur affermi dans la grâce de Dieu. C'est-à-dire, comment Dieu définit sa relation avec vous? Et on a besoin d'avoir un appel. On a un appel élevé, c'est de comprendre notre relation avec Dieu. C'est pour ça que dans Romains 12, il va commencer avec « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, puis soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. » Puis après ça, il parle d'amour fraternel, il parle de tout le reste. Et on a besoin, et c'est pour ça qu'à la fin du livre, il parle beaucoup plus des relations dans l'Église. Et avoir un regard dans ma relation avec Dieu qui est basé sur un amour qui va aller jusqu'au bout. Un amour qui va aller jusqu'au bout et qui est inconditionnel. Notre relation avec Jésus et l'Église est beaucoup plus qu'une relation basée sur les conditions de la marche qu'on a avec l'autre. Et je termine avec ça ce matin. La relation que Dieu nous offre dans cette relation inconditionnelle-là, c'est une relation qui est offerte, garantie et préservée à 100% par sa grâce. Par sa grâce. Le salut vous est accordé et garanti et préservé seulement sur la base des mérites de ce que Jésus-Christ a déjà accompli et c'est déjà terminé. C'est offert à l'homme sans ses mérites. Et donc, si la relation qui vous est offerte par Dieu est sans mérite, il n'y a rien, non rien, que vous pouvez faire pour le démériter. Donc, si ça vous est accordé sans les mérites, il n'y a rien que vous pouvez faire pour le démériter. Puis je vais terminer avec cette histoire-là. C'est le livre d'Osée. Dieu dit, va voir une prostituée. Il dit au prophète Osée de prendre une prostituée puis de la prendre pour épouse. Puis il dit, veux que tu ailles montrer à mon peuple comment je les aime. Et puis, il va comparer son peuple à une prostituée, justement, qui retourne vers ses amants. Et dans l'histoire, Gomer retourne vers ses amants aussi. Et dans le livre d'Osée, Dieu dit ceci. « Je serai ton fiancé pour toujours. » Pour combien de temps? Pour toujours. Je ne serai pas avec toi jusqu'à ce que... Et notre cœur a besoin d'être affermi dans ça. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. Cette justice, on a vu dans le livre de Romains, c'est une justice qui règne par la grâce. La grâce, on a vu que c'était une faveur qui nous était donnée qu'elle n'était pas méritée en retour. Une faveur imméritée et parce que Dieu veut nous montrer sa bonté, c'est un amour persévérant qui dit, tu sais quoi? Tu vas être pogné avec moi. Tu vas être pogné avec moi parce qu'on a commencé cette alliance-là. On va aller jusqu'au bout ensemble. Si tu fais ton lit en enfer, je vais te conduire même là. Tu es pogné avec moi. C'est une alliance qui, c'est comme, c'est pour toujours. Je suis ton mari pour toujours, si on prendrait l'image du mariage. Tu es fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je te serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Quel beau verset qui nous montre. Et là, Romains 5 dit, « Quand nous étions encore ses ennemis, Christ est mort pour nous. » Quand on était à notre pire, quand on ne le cherchait pas, Christ est mort pour nous. À combien plus forte raison serons-nous aussi sauvés par lui de la colère? Si quand on était ses ennemis, on ne le cherchait pas, il est mort pour nous, à combien plus forte raison, là, il fait une preuve, là, il dit, regarde, t'es ennemi, tu veux quoi, il faudrait que tu redeviennes son ennemi? Si tu devenais son ennemi, il est mort pour toi quand tu étais son ennemi. Si tu deviendrais son ennemi, il cesserait de t'aimer? Non, justement. Il est bon que le cœur soit affermi dans la grâce. Amen. On va arrêter l'enregistrement. Si vous avez des questions ou commentaires, allez-y.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.